à voix nue. Cette semaine, Béatrice Leca rencontre Hélène Moucharzet. Ce soir, les archives, du murmure au hurlement.
Hélène Moucharzet, bonsoir. Hier, nous sommes entrés dans votre enfance à travers les premiers souvenirs et aussi à travers l'image de votre père, Jean Zay, ministre du Front populaire, républicain exemplaire, juif, incarcéré par Vichy en 1940 et assassiné par la milice en 1944. Arrivé à l'adolescence, vous découvrez des archives réunies par votre mère dans une armoire et un petit placard, et là, on pourrait dire sans doute que le passé vous saute à la gorge. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a là le début de l'histoire qui va vous mener à la création du CERCIL, Musée mémorial des enfants du Valdiv, 40 ans plus tard, dans les années 1990. Les archives, ce sera l'une des grandes affaires de votre vie. Et pourtant, dans votre famille, ce qui règne dans l'enfance et à l'adolescence, c'est plutôt le silence.
Oui. Enfin, c'est d'abord l'absence. L'absence d'un père, tout simplement, qui est évidemment pour moi très cruel. Alors là, en revanche, j'ai des souvenirs à l'école primaire où j'entendais mes petites copines dire « papa, papa, papa », mot qui m'était absolument interdit la première fois. Parce que quand... moi, en tout cas, ma sœur Catherine, c'était différent parce qu'elle était plus âgée. Mais quand je parlais de mon père avec ma mère, j'ai jamais dit « papa ». C'était presque un mot qui m'était interdit et que finalement j'ai prononcé pour la première fois quand moi-même j'ai eu des enfants.
Comment vous le désignez, votre père, avec votre mère ?
Ben justement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est toujours elle. C'est sans doute... à vrai dire, je ne sais pas. C'est toujours elle, j'ai engagé la conversation. Enfin, à partir du moment où j'ai voulu l'interroger, c'est plus tardivement.
Vous aviez quel âge ?
J'ai vraiment voulu l'interroger après les années 60, au début des années 70, quand je reviens habiter Orléans.
Mais là, vous êtes enfant et vous n'osez pas parler de votre père avec votre mère ?
Non, parce que j'entends beaucoup parler de mon père. Par d'abord des amis très proches de mon père qui ont travaillé avec lui, qui étaient dans son cabinet au front, pendant son ministère, et des gens qui viennent très souvent à Orléans, puisqu'elle est revenue à Orléans à la Libération, puisqu'elle n'avait plus de domicile. Elle est donc venue chez ses parents à elle, mes grands-parents maternels donc. Et ses amis viennent très souvent, des amis merveilleux qui... Enfin, je pense à Marcel Abraham, qui était son directeur de cabinet, toujours très très proche, très affectueux. Je pense à Jean Cassou, qui a été également très proche. Je pense à Pierre Mendès-France. Tous ces gens-là venaient à Orléans rencontrer ma mère et bien sûr parlaient de mon père. Donc moi, j'écoutais, j'étais silencieuse. Et de toute façon, quand vous parlez de silence, j'ai été une enfant et une adolescente très silencieuse. On me l'a souvent dit. Et finalement... je me rends compte que c'est d'abord une absence, un trou, mais en même temps une hyper-présence, puisque j'entends beaucoup parler de mon père, mais de façon très officielle, c'est Jean Zay. Et comment j'entends parler de mon père ? On ne parle pas de juifs, on ne parle pas de Pétain, on ne parle pas de la milice. Sur les plaques que je vois, moi, quand je vais aux commémorations qui ont commencé très tôt sur le lieu de son assassinat, et qu'est-ce qui est écrit, qui est encore écrit actuellement ? Assassiné par les complices de l'ennemi. Sur d'autres plaques, par exemple, un lycée est inauguré dans les années 60, je crois. Qu'est-ce qui est écrit ? Victime de la barbarie nazie. Ou dans d'autres endroits, qu'est-ce que je lis ? Assassiné par les complices, par les ennemis de la France. C'est-à-dire, à aucun moment, il n'y a la question de l'antisémitisme. À aucun moment il n'est question de la responsabilité française. Et moi qui au lycée n'apprends pas ça, parce qu'il faut quand même se souvenir que moi je suis au lycée, bon, en 57 je suis en terminale, on n'enseigne pas ça. Et on est dans la mémoire de l'époque, à savoir, qui est la mémoire collective, on glorifie la résistance, on glorifie la France libre, et on a raison de le faire, mais tout ce qui est la mémoire de la collaboration, la mémoire de Vichy, des crimes de la milice, des crimes de Vichy, c'est enfoui. Je ne dis pas que c'est oublié, mais c'est totalement enfoui. Et ça va ressurgir au début de, dans les années 70. Et moi, mon parcours personnel va suivre aussi ce parcours collectif, enfin, ce parcours de la mémoire collective.
Vous vivez à Orléans. Vous êtes la fille de quelqu'un qui a été extrêmement connu dans cette ville. Comment vous parlez de votre père ou comment vous êtes considérée ? Tout le monde sait que vous êtes la fille de Jean Zay ou on vous demande ce que fait votre papa à l'école ? Comment ça se passe ?
Non, parce qu'à l'école, on sait bien ça. Je me souviens, j'avais toujours un problème en remplissant les fiches, vous savez, qu'on remplit. Profession du père. Je me souviens de ma perplexité, je ne me souviens plus de ce que j'écrivais d'ailleurs. Mais non, à Orléans, on le sait, parce que sa mémoire à Orléans est toujours restée assez vive. Et puis, il y a des gens qui l'ont connue.
Ils vous en parlent, ces gens-là ?
Oui, qui m'en parlent. Mais je suis petite fille, moi. J'écoute beaucoup, je ne parle pas... Je ne parle pas beaucoup, et ma mère, encore une fois, raconte très peu, mais en même temps, j'éprouve une espèce de sentiment bizarre que qu'est-ce qui fait que je n'ai plus mon père ? C'est que justement, il était très connu. C'est justement parce qu'il a été un grand ministre, symbole de la République, comme vous dites, incarnation de la République, c'est pour ça qu'il est mort. Donc, se développe en moi, quand je suis petite fille, une espèce de sentiment que j'aurais bien voulu être comme les autres, quoi. Et de ne pas forcément avoir un père tellement célèbre, mais avoir un père. Parce que ce père qui est tellement célèbre, il n'est pas là. Et que donc, j'aurais préféré être comme des petites copines. D'ailleurs, je noue des amitiés enfantines. À ce qu'on n'appelait pas encore le collège, qui était encore le lycée, je me souviens de la classe de 4e en particulier, où ma mère est convoquée chez la directrice de l'établissement, qui dit, mais enfin, je travaillais très bien, j'étais très bonne élève, mais j'étais un peu chahuteuse, et surtout, elle dit à ma mère, faudrait qu'elle choisisse un petit peu mieux ses relations, vous savez, c'était un lycée un peu bourgeois comme ça, parce que je nouais amitié avec les filles insupportables, mauvaises élèves. Et je me rends compte là, rétrospectivement, que c'était aussi pour normaliser ma situation, être comme les autres. Ça a été un sentiment que j'ai eu assez fort, qui a disparu après, évidemment.
Est-ce que votre sœur Catherine vit les choses différemment et est-ce qu'elle vous en parle de votre père ?
Non, on n'en parle pas entre nous. Non. Elle a vécu les choses différemment. D'abord parce qu'elle avait 4 ans de plus que moi. Normalement, elle devait avoir des souvenirs quand même de cette période de la prison, de l'après-guerre. Elle en a finalement assez peu. Mais on n'en parle pas. De même qu'on en parle très peu avec ma mère. Sauf de la période heureuse. Ma mère nous parlait volontiers de cette période heureuse. Enfin, il faut rappeler quand même que elle est originaire d'une famille extrêmement modeste, hein, et que suite à ce mariage, il se marie en 31, et très vite, l'ascension de mon père comme député, elle va se retrouver. Il y a une lettre en particulier que j'ai retrouvée bien après. Elle ne revient pas, quoi, dans ce rue de Grenelle, dans ce ministère. Et elle vit des années très heureuses parce que, même si ce sont des années difficiles, 36 a été une période d'exaltation extraordinaire, d'espoir fantastique du Front populaire quand même. Mais en même temps, une période tragique, hein, du fait des périls extérieurs. Donc il y a toujours ce double mouvement. Donc elle nous parlait volontiers de cette période-là. Et donc, Catherine, pour moi, a toujours été le symbole, Catherine, ma sœur, a toujours été pour moi le symbole de cette période heureuse, et moi, l'incarnation du malheur. Et je me suis toujours demandé si pour ma mère, qui n'a jamais fait de différence entre nous, bien évidemment, mais il n'y avait pas obscurément chez elle, il y a l'enfant du bonheur et il y a l'enfant du malheur, quoi. Et je me souviens très bien du moment où, quand je commence à avoir conscience que dans ces grands placards, il y a des archives, mais encore Ma mère nous en tient éloignés. Mais je commence un peu à regarder, mais pas comme je le ferai plus tard. J'ose pas, presque. Je me souviens très bien, je lui pose des questions. Et je me souviens du moment précis. Et ça, c'est en 1961, je peux le dater, parce que nous allions à Paris, je venais d'avoir mon permis. Donc c'est moi qui conduisais ma mère, et on allait voir à Paris ma tante, la sœur de mon père, Jacqueline, de laquelle il était très proche, et qui était très gravement malade dans un hôpital à Paris. On allait la voir très souvent. Et je me souviens très bien qu'en voiture, je parlais avec elle et je lui posais des questions. Et je me souviens très bien qu'un jour, je reviens sur l'histoire du Massiliard en lui posant des questions très précisément. Qu'est-ce qu'elle avait éprouvé en arrivant sur... Et à ce moment-là, à sa réaction, j'ai vu qu'il fallait que j'arrête. Qu'il fallait que j'arrête de lui poser des questions, que c'était trop douloureux. Et après, donc, c'est aux archives que je me suis adressée pour en savoir davantage.
Ce sentiment d'être l'enfant du malheur, vous l'avez éprouvé enfant ?
Non, c'est plus tardivement. C'est quand j'ai réalisé toute cette histoire, vraiment, dans tous ses détails. Parce que vous savez, jusqu'à la fin des années 50, voilà, j'ai cette image officielle, je sais pas vraiment ce qui s'est produit. Je connais pas bien l'histoire de mon père. Souvenir et solitude, je vais le lire plus tard, même si ma mère très tôt nous donne des exemplaires. Le détail de ce qui s'est passé en prison, de ce drame du Massilia, etc., de la prison, de son assassinat, je le saurai plus tard, ça. Mais là, je vis dans une représentation très vague, assassinée, en effet, par les Allemands. Parce qu'il était ministre du Front Populaire, mais la présence de la victime juive, elle n'est pas encore là. De même qu'elle n'est pas dans la conscience, encore une fois, collective.
Et la responsabilité de la France, elle est encore moins là.
Elle est encore moins là. C'est vraiment le... Écoutez, 1956, il y a le film « Nuit et brouillard » de Alain Resnais qui sort. Et dans ce film, il y a une photo, alors, qui est une photo du camp de Bonne-Hollande. Et en premier plan, il y a un gendarme avec son képi, qui montre donc que ces camps étaient gérés, gardés par la gendarmerie française. Cette photo va faire l'objet d'une interdiction par la commission de censure, qui met comme condition à l'obtention du visa de censure pour Alain Resnais qu'elle disparaisse de son film. Donc Alain Resnais va dissimuler le képi du gendarme. Elle est devenue très célèbre, cette photo, comme symbole de ce qu'on ne voulait pas voir à l'époque. On ne supportait pas, on ne voulait pas, on ne savait pas. On ne savait pas affronter le fait que des Français avaient collaboré jusqu'à l'extrême de la collaboration, en particulier ces camps de Pithiviers-Pont-la-Redoute et l'assassinat de Jean Zay et de Mandel. Ça, on ne voulait pas le voir. Et moi, je suis dans ce mouvement-là, parce qu'on ne me dit rien au lycée. Dans la mémoire familiale, c'est cette image-là qui reste, et donc je le découvrirai après. Mais c'est vrai que c'est ce mouvement-là de découverte de ma propre histoire qui va m'amener à l'histoire plus collective. Il y a toujours, me semble-t-il, je l'ai toujours éprouvé comme tel, un lien étroit entre mon histoire personnelle, ce que je vais en découvrir tardivement, et le cheminement de la mémoire collective dans notre pays.
Est-ce qu'enfant ou jeune adolescente, vous percevez que dans cette armoire, dans ces archives, il y a un secret terrible ?
Non, parce que je sais que... D'abord, peut-être ce qu'il faut dire, c'est que la maison où ma mère s'est réfugiée, il n'y a pas d'autre mot, à la Libération, parce que l'appartement à Paris qu'ils avaient été pillé, donc elle revient chez ses parents. L'appartement que mes parents habitaient à Paris, rue de Bourgogne à Paris, hein, en face de l'Assemblée nationale, a été pillé par les Allemands. C'est-à-dire que vous savez que les Allemands, quand ils arrivent à Paris, dès juin 40, ils ont déjà une liste des appartements juifs qui vont littéralement spolier. Et donc tout ça va être emmenée en Allemagne et ma mère, à la libération, va être sollicitée par la commission de restitution des biens spoliés pour faire des listes de ce qu'il y avait dans cet appartement, y compris des livres. Et c'est comme ça qu'elle va récupérer quelques meubles que j'ai chez moi encore. Quelques livres, mais pas tout, évidemment. Donc moi, je me dis qu'encore, je ne sais pas où, il y a peut-être encore, sûrement, des meubles et des listes, mais en tout cas, elle en a récupéré quelques-uns. Donc elle n'a plus de domicile, et puis elle est seule, et puis elle n'a pas de ressources. Elle va se battre pour que, après, il y a tout ce combat-là qu'elle va mener à la libération, d'abord de procès qu'elle va mener, trois procès qu'elle va mener, qui ont non pas bercé mon enfance, mais qui ont été importants dans mon enfance, parce que procès 45, procès de Pétain, où elle demande à être entendue comme témoin, on lui refuse. Elle écrit une lettre au président du tribunal Montgibaud, soulignant la responsabilité de Vichy, y compris dans l'assassinat de mon père. Le président refuse de lire la lettre. 45. 48, elle intente un procès aux héritiers des journaux Je suis partout et Gringoire, qui ont publié en 41 des notes qu'il avait prises le soir du Conseil des ministres en 1938, c'est-à-dire au moment de Munich, où il montre, par ses notes, qu'il est absolument hostile à Munich. Philippe Henriot publie ses notes. Voilà l'exemple du juif belliciste. Donc c'est toute la thématique qui va être retenue après contre les prisonniers de Riot. Donc, 45, Pétain, pas coupable. 48, les idéologues de la collaboration et de l'antisémite, pas coupable. 53, arrive le procès d'un des quatre miliciens, homme de main, c'est pas eux qui ont décidé l'assassinat, qui est venu sur ordre de Darnin, et qui va révéler les circonstances de l'assassinat. Le résultat, alors que la peine de mort est requise contre lui, et à la grande surprise de toute la presse de l'époque, il est pas, non seulement il n'est pas condamné à mort, mais il a les circonstances atténuantes. Et au nom de quoi il a les circonstances atténuantes? Parce que ce misérable milicien, dit le tribunal, a été victime de la propagande antisémite déversée pendant toute la période de la guerre. Donc un jugement qui est contradictoire avec celui de 48. Et donc pour moi, je termine là-dessus parce que c'est important, ma mère, elle va être toute mon enfance, tout le temps à Paris, au moment du procès de 48, elle est très souvent absente. Et moi, je suis chez les grands-parents, avec une tante qui s'occupe de moi, un environnement familial venant de sa famille à elle, très important. Mon grand-père Zay, qui meurt très tôt, après un an après son fils, elle est souvent absente. Mais surtout, ce dont je me rends compte des années après, c'est que jamais justice n'a été rendue à mon père. Pétain, chacun sait qu'il n'a pas été jugé sur ces questions-là. Le procès de 48 ne reconnaît pas l'incitation au meurtre. Donc ce n'est pas ces idéologues antisémites, anti-front populaire, anti-républicains qui sont responsables, dit le tribunal. Et enfin, le clou, si je puis dire, ce milicien qui obtient les circonstances atténuantes et qui, en fait, va être libéré quelques années après. Mais il faut se souvenir qu'on est en 53 et c'est l'année des lois d'amnistie. Donc pour moi, et je vais les découvrir ça aussi très tardivement, justice n'a jamais été rendue à mon père. Et c'est peut-être aussi ce qui, chez moi, a été tellement, pour moi, important quand j'ai découvert, mais vraiment l'immensité de ce drame des enfants juifs déportés à partir de Caen à 40 km d'Orléans dont on m'avait jamais parlé. Ces enfants juifs, justice ne leur a, en tout cas quand on crée le CERCIL, justice ne leur a jamais été rendue et surtout, il faut les sortir de l'oubli.
Votre maison à Orléans et l'environnement familial, c'est un environnement extrêmement protecteur malgré ces procès et malgré ce bruit de fond qui s'entend quand même et qui prend la forme du silence, mais dont on va voir après qu'il va se transformer.
Oui, parce que d'abord, c'est une grande maison avec deux étages. Et donc, ma mère revient à la libération dans cette maison. mes grands-parents sont là, qui étaient des gens extrêmement modestes. Mon grand-père avait une petite entreprise de peinture. Et c'est une grande maison qui va être extraordinairement accueillante. C'est-à-dire, ma mère, non seulement a voulu nous protéger de cette violence extrême, mais elle a voulu qu'on ait une enfance ouverte. C'est-à-dire que cette maison a accueilli plein de gens, selon les périodes. Elle a accueilli un jeune peintre qui avait son atelier au deuxième étage. Elle a accueilli des cousins du côté maternel qui avaient besoin à ce moment-là de quitter un peu le milieu familial. Et moi, quand j'étais au lycée, je donnais des cours de latin à mon jeune cousin qui s'appelait François et qui me jetait d'ailleurs le gaffio à la figure parce qu'il s'énervait. Donc, j'avais un oncle, toujours un frère de ma mère que j'adorais parce que c'était quelqu'un qui pensait être miraculeux parce qu'il avait eu la tuberculose et qu'à l'époque, on mourait de la tuberculose. Il y avait ses amis qui étaient des jeunes gens, tous des artistes d'ailleurs, des peintres. Bref, un environnement là très vivant, très généreux. Ma mère a toujours accueilli avec extraordinairement de générosité. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, la maison était là, elle était là. Donc c'est une enfance heureuse plutôt que gaie peut-être. Enfin, je ne sais pas comment la qualifier. Gaie en même temps parce qu'on riait beaucoup. Et qu'encore une fois, il y avait aussi cette présence des amis de mon père qui rappelaient ce souvenir.
Est-ce que vous diriez, Hélène Moucharzet, que vous venez d'une famille juive ?
Quand je regarde l'arbre généalogique que certains ont fait pour nous, donc du côté de mon père jusqu'à mon grand-père, on est juif totalement. La tradition religieuse, à mon avis, a dû s'arrêter assez récemment, enfin par rapport à l'histoire de mon père, puisque quelqu'un de la communauté juive ici à Orléans m'a montré un document où il y a la cotisation de Léon Zay à la communauté juive. Donc ça veut dire qu'il se... Même laïque, mon grand-père Léon était un laïque total, qui a épousé une protestante, et qui a laissé sa femme élever ses enfants dans la religion protestante, même si je crois qu'il n'était pas complètement pour, il s'est pas opposé, et qui fait que mon père a lui aussi épousé une protestante. Donc... j'ai pas eu d'enseignement du tout d'une religion juive. J'ai eu une éducation protestante. J'ai fait ma première communion protestante tardivement. C'est toute la tradition de mes grands-parents. Enfin, double tradition d'ailleurs de ma grand-mère, Alice, et de ma mère, qui est une lignée qui se rattache, vous savez, à ces protestants du désert, là aussi, qui remontent très loin. Donc, ce que je sens profondément, c'est une double ascendance, juive et protestante, dans laquelle je ne me reconnais plus du point de vue religieux, mais dans laquelle je me reconnais du point de vue des persécutions qui ont frappé ces deux lignées, que ce soit les juifs ou les protestants.
Est-ce que la religion était très présente dans votre enfance ?
Elle était présente dans la mesure où, d'abord, on a été baptisé au Maroc en janvier, février 41, je crois. Et puis après, je me souviens très bien que tous les soirs, on disait une petite prière, dont j'ai encore les termes, prière enfantine, mais qui disait. Protéger mon père, etc., etc. Mon père et tout ce que j'aime, et tout ce, etc. Cette petite prière, je ne pouvais pas m'endormir sans avoir fait cette prière. Et donc après, j'ai eu une éducation protestante tout à fait ordinaire. Et puis une scolarité quand même, elle aussi, qui a été importante, puisque au lycée, moi, en classe de première, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de littérature extraordinaire qui m'a fait découvrir la littérature. Et puis surtout en classe de terminale, de philosophie qu'on appelait à l'époque, un prof absolument extraordinaire qui s'appelait Hélène Védrine, qui m'a fait découvrir la philo et qui, ayant découvert chez deux de ses élèves peut-être un petit peu de l'intérêt tout, nous prenait à la fin des cours pour nous donner des cours particuliers qui font qu'elle nous a présenté au concours général de philosophie et que j'ai eu le troisième prix de philosophie au concours général des lycées. Ce qui, évidemment, pour ma mère, a été magnifique, parce que là aussi, ça a été un coup de projecteur en plus, de tous les amis, l'association des amis de Jean Zay qui existait à l'époque, la digne fille de son père. Elle a un prix de philosophie au concours général. Et ensuite, donc, j'ai continué ses études.
Donc, ce silence, d'une certaine façon, il vous a protégé.
Ah oui, complètement, oui. Parce qu'il y a eu aussi cette vie intellectuelle de jeune lycéenne qui a été importante, hein, des vraies découvertes, des amitiés aussi de lycée que j'ai retrouvées après. Et puis, il y avait toujours quand même, toujours, l'absence, enfin, ce que je sentais comme un déchirement entre l'absence du père qui n'a jamais été comblé quand même, quel que soit ce milieu-là et quelles que soient les protections, et puis un père presque dont la mémoire était presque trop lourde pour moi, parce que ce que j'ai très tôt ressenti, c'est qu'il fallait que je sois digne de mon père. Et ça m'était dit, redit, à tel point que quand je sors du lycée, donc avec ce prix de philosophie, on me dit, faut aller faire une cagne à Paris, à Fénelon, qui était la grande cagne. Elle l'est toujours d'ailleurs. Et moi, je ne voulais pas. Mais quelque chose qui en moi disait, je dois prouver moi-même, et non pas seulement parce que je suis la fille de Jean Zay. Donc j'ai refusé d'aller en cagne à Fénelon. Et pourtant, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, y compris des amis de mon père, qui m'ont dit « mais il faut que tu le fasses », mais j'ai résisté.
Hélène Moucharzet, merci. Le passé va continuer son travail souterrain dans vos années d'adulte, et on verra comment, dans les années 1990, cette mémoire enfouie reviendra questionner les consciences. Demain, nous entrerons dans votre vie de jeune femme engagée et dans votre vie professionnelle, pas si loin, là encore, de l'esprit de votre père. À demain.
À demain, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Béatrice Leca avec Hélène Moucharzet. À Voilà, réalisation Yaël Mandelbaum, prise de son Valérie Lavalard, attachée de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À Voix Nue, déjà disponible en intégralité sur franceculture.fr et l'appli Radio France.